C'est plutôt rare qu'on puisse montrer publiquement un progiciel d'entreprise, un outil logiciel qui est taillé exclusivement pour une entreprise. Avoir un regard annoté sur sa conception logicielle et son interface est encore plus rare. Nous avons cette chance assez unique que l'administration fasse concevoir des outils numériques pour la fabrique législative. Or, les lois nous concernent tous. Une des collaboratrices de l'émission CPU, Maïwan, s'est retrouvée engagée sur ce projet porté par une start-up d'État. Elle écrit actuellement sur son blog une suite d'articles fort instructifs sur la conception de ce logiciel. Nous avons donc la chance de recevoir Maïtane Lenoir, aka Maïwan, spécialiste UX, participe au projet Framasoft dont l'évolution de l'interface utilisateur et qui est donc déjà intervenue plusieurs fois dans cette émission comme chroniqueuse et interviewée. Et nous avons en direct par satellite Mélodie Dailly, agent de l'administration qui participait en particulier au projet annuel de loi de financement de la sécurité sociale et intrapreneuse sur la start-up d'État. CPU, carré et petit utile. Comment vous vous êtes retrouvé à travailler sur une app de travail législatif dans une start-up d'État ? De face, dites-moi quels sont les profils qui y sont employés. Maïtane Lenoir.
Moi, j'ai commencé à travailler sur ZAM parce que l'équipe s'était montée déjà avec Mélodie, du coup, qui est une intrapreneuse. Donc, on dit intrapreneuse parce que c'est une personne de l'administration qui porte un projet numérique au sein des startups d'État. Il y avait une personne qui a un profil qu'on appelle plutôt coach, qui est Raphaël. Et il y avait aussi Ronan et David qui sont les deux développeurs. Et moi, je suis la dernière arrivée dans l'équipe. Et donc, on m'a dit... qu'il y avait une startup d'État qui se montait et que il paraissait que c'était cool de faire venir des designers assez tôt dans le projet. C'est comme ça que je suis rentrée dedans. Et pour répondre à la deuxième partie de la question, il y a pas mal de développeurs au sein des startups d'État et des intrapreneurs, des coachs, des designers, c'est plus rare, mais ça commence à arriver. Et je sais pas trop s'il y a d'autres profils, ça me parle pas trop.
Mélodie.
Alors de mon côté, je suis arrivée dans l'aventure start-up d'État parce que j'étais du coup agent de l'administration qui souffrait, qui avait un irritant important, et quand j'ai été rencontrer les personnes de la communauté Betagouv qui anime justement le programme start-up d'État, ils m'ont dit écoute, le problème que tu rencontres, il faut l'adresser, si t'es motivé et que t'as du temps, monte une start-up d'État et commence à bosser dessus. Donc voilà comment ça a commencé pour moi.
Alors comment on monte une start-up d'État ? On va voir un banquier, on dépose pour demander un RCS auprès de la Chambre de commerce, on demande l'autorisation d'un ministre, d'un N+1, ou on va voir notre président de la République en disant « je veux être de la Start-up Nation ».
Et ben finalement c'est pas si loin du fait d'aller voir un banquier, parce que effectivement la première chose à trouver c'est des moyens. Dans les moyens qu'il faut trouver, il y a évidemment des moyens financiers, et là pour nous ça a été plutôt simple parce que d'entrée de jeu la direction de l'administration qui anime le programme Startup d'État a tout de suite donné son accord pour financer le projet. Et puis les autres moyens à trouver, c'est les moyens humains en réalité. Et aujourd'hui, avec un peu d'expérience sur le programme Startup d'État, on se rend compte que c'est souvent ça qui manque, c'est du temps en fait. Un agent d'administration qui se dégage du temps pour faire ça. Mais dans notre cas à nous, en fait, ma hiérarchie était tout à fait d'accord pour me donner du temps pour gérer ce projet. Donc en fait, argent plus montant, donc un agent, a permis le lancement de la start-up d'État, et généralement, ça se lance autour d'un irritant en particulier, mais je ne sais pas si Maïtane, tu veux compléter sur cette partie peut-être ?
Sur l'irritant, bah, du coup, oui, le but de la start-up d'État, c'est de régler de façon notamment numérique un problème qu'on appelle aussi un irritant, qui est un espèce d'énorme caillou dans la botte des citoyens, et qui ont un rapport avec les agents du public, et nous, on est là. Peut-être la première start-up ou une des seules start-up qui faisons quelque chose spécifiquement à destination de l'administration, et on n'a pas de lien avec les citoyens en direct.
D'accord, donc il s'agit, comme dans toute start-up, de vouloir révolutionner le monde pour faire le bien, mais là pour le coup c'est qu'il y a un vrai besoin qui est identifié et qui profite à tous sans qu'il y ait réellement de clients. Ou que plutôt que tout le monde soit client, quoi.
En réalité, il y a peut-être, on va dire, des premiers clients qui sont les agents d'administration, parce que c'est eux qui vont être les utilisateurs de l'outil qu'on a développé. Mais en fait, un peu par ricochet, on a toujours eu en tête, nous, de travailler sur un peu voilà la transparence du processus de fabrication de la loi, la performance publique sur le sujet, etc. On a toujours eu ça un peu en arrière-plan dans nos têtes, même si aujourd'hui, clairement, il n'y a pas encore en tout cas d'illustration en pratique pour les citoyens, effectivement.
Alors, ZAM est censé remplacer, en fait, s'insérer en fait dans la gestion des amendements. Qu'est-ce qu'il remplace en soi de cet outil? Comment se passait le travail législatif sur lequel il est censé remplacer? Comment il se passe jusqu'ici?
Alors, tu amenderas Mélodie, mais de ce que Mélodie nous a raconté, c'était beaucoup des avant. Donc le travail à faire, c'est je suis une personne dans un ministère et j'ai sans doute participé à la rédaction du projet de loi. Les députés posent des amendements pour modifier ce projet de loi et je vais lire ces amendements et dire quelle est la position du gouvernement. Donc est-ce que le gouvernement il a envie d'être favorable à cet amendement ou défavorable ou une autre position. Et dans ce cas-là, du coup, je dois rédiger une réponse. Donc, je dois lire l'amendement lié à l'article que j'ai réalisé. Rédiger une réponse et ensuite la faire parvenir à mes supérieurs pour qu'ils disent « Ah oui, je suis d'accord avec la façon dont c'est rédigé » ou « Je pense qu'il y a des modifications à faire ». Et ça, avant, ça se faisait à base de tableaux Excel et d'envoi par mail, on remplit les cases avec les réponses, on l'envoie à son supérieur dit ok je le renvoie au-dessus, le niveau au-dessus il dit ah finalement ça me va pas trop donc ça redescend les échelons et puis il faut voir que en fait un article de loi potentiellement c'est fait par un bureau mais du coup comme s'il y a beaucoup d'articles de loi il y a d'autant plus de bureaux donc c'est d'autant plus éparpillé sauf qu'au fur et à mesure il faut rassembler les différents tableaux Excel et donc du coup tout le monde n'a pas forcément les mêmes niveaux d'avancement.
Même tableau Excel, c'est dans le meilleur des cas, parce que il y a aussi des administrations qui le faisaient sur des papiers imprimés, en annotant à la main et en donnant des pochettes à valider aux supérieurs hiérarchiques. On en était encore là en 2017. Hein.
Ah ouais. On leur a dit que entre temps, par exemple, même Excel, on le trouve en ligne, en collaboratif.
En fait, ce qui est particulier à savoir, c'est que il y a peu d'agents. Donc moi, j'en faisais partie, mais il y a peu d'agents qui sont amenés à réaliser ce travail plusieurs fois en fait dans leur carrière. Il y a beaucoup d'équipes dans l'administration qui vont être amenées à gérer un projet de loi, donc avec la phase parlementaire, une fois peut-être deux fois, avec 10 ans d'écart entre les deux. Et donc effectivement, c'est pas quelque chose. Enfin, c'est pas un travail sur lequel ils investissent en fait du temps pour créer des outils, etc. Alors que dans mon cas, comme dans le cas de mes collègues qui travaillaient sur le projet de loi de finances, on est sur des projets financiers annuels. Et donc tous les ans, on avait ce problème. Donc effectivement, on avait cette volonté d'investir aussi pour améliorer un peu nos conditions de travail là-dessus.
C'était un peu la soupe à la grimace. Oh non, c'est la corvée et on va encore se... Ces amendements à réexpliquer. Ouais.
C'était rigolo parce que ça devenait une unité de temps. T'as fait combien de PLFSS, toi? J'en ai fait 4. Et ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. C'est-à-dire t'as souffert 4 fois sur le sujet. Et c'était énorme, quoi. Et il faut voir que les agents tournent à une moyenne de 2 ou 3 maximum, quoi. C'était déjà beaucoup.
Et puis en plus, toi, Mélodie, comme justement tu avais les mains dans le cambouis, tu savais exactement ce que tu voulais et comment tu le voulais, quoi.
Ouais, exactement. Et alors encore une fois, je le savais pour notre cas à nous. Et il y a eu aussi un peu ce défi dans le cadre de toute la startup de élargir aussi ma connaissance métier au cas des autres en fait administrations.
Est-ce que toi, Mélodie, tu avais déjà passé commande auprès de développeurs, auprès d'indépendants, auprès d'une 2S2I, d'une ESN, d'une application pour savoir comment on gérait ça?
Oui, bien sûr, parce que le programme Startup d'État, il était assez, et je pense aujourd'hui, il est de mieux en mieux connu, mais en tout cas, à ce moment-là, moi, je le connaissais pas du tout, et mes supérieurs hiérarchiques non plus. Donc, effectivement, la première voie qu'on a essayé d'utiliser, c'était la voie, on va dire, normale, on contacte un prestataire, on lui demande de nous sortir un devis sur la base d'un document qu'on a rédigé rapidement, qui exprimerait notre besoin, et voilà. Et en fait, sur la base de ça, on s'est retrouvé avec un devis très très cher qui nous semblait pas tout à fait pertinent sur beaucoup de choses et en réalité on n'avait pas l'argent pour le faire et finalement c'est peut-être ça la chance qu'on a eue, c'est que le fait de pas avoir l'argent pour faire ça, ça nous a fait envisager d'autres pistes et notamment les startups d'État.
Est-ce qu'un tel outil numérique existe dans un autre pays démocratique, je précise?
Alors, à ma connaissance, non. Il y a des outils qui existent pour l'utilisation des parlementaires cette fois, donc un peu de l'autre côté du miroir, non pas côté gouvernement mais côté parlement. Je sais qu'aux États-Unis il y a un outil qui les aide à rédiger leurs amendements en fait dans une légistique, c'est le langage juridique de rédaction des amendements, dans une légistique propre. Donc ça existe dans d'autres pays. Mais par contre côté gouvernement pour aider les agents de l'administration à faire ce travail-là. En tout cas, j'en ai pas entendu parler et on a eu l'occasion de présenter ZAM à une délégation serbe il y a pas très longtemps qui nous ont confirmé qu'ils avaient jamais vu un truc pareil et que voilà, c'était pas quelque chose qui existait par ailleurs.
Quelles sont les contraintes spécifiques sur ce type d'application dans ce type de métier ? Est-ce qu'il y a des contraintes d'archivage, de reconnaissance d'informations de données privées ou de pouvoir tracer en fait qui modifie quoi ?
Alors, c'est une question intéressante. Oui. En fait, on a démarré ZAM en disant c'est un produit qui est en bêta et il est resté en bêta très longtemps, en fait. Donc, on a...
Tu connais des sites web qui enlèvent le bandeau this website is under construction?
Alors, c'est exactement ça. Mais en fait, dans le cas de l'administration ou justement des ministères où, en fait, il faut réussir à faire en sorte que les personnes nous fassent assez confiance pour dire, OK, on essaye un truc en bêta. Et ça nous convient. On a eu une façon de fonctionner qui est que très tôt on a rassemblé des utilisateurs pour leur montrer justement les différentes améliorations. Donc tous les 15 jours, Mélodie, elle avait un groupe d'utilisateurs avec qui elle montrait les avancées du logiciel.
Donc mais... une restitution dans la méthode Scrum, quoi.
Ouais, c'est ça, une démo, ouais, tout à fait. Et en fait, ça a permis de dire depuis toujours, on sait qu'on est en bêta, on sait qu'il reste des choses à faire et on avance. Vous voyez bien chaque quinzaine qu'il y a des choses nouvelles qui se passent. Et en même temps que du coup, on a eu très tôt des personnes qui, alors qu'il n'y avait pas du coup toutes les features qu'ils auraient pu attendre, étaient motivées à l'idée d'utiliser le logiciel parce que le but principal du logiciel, c'était de simplifier certaines choses. Et donc, après, on avait des demandes, bien sûr. Donc, l'archivage, ça a toujours eu lieu, mais ça, on faisait des exports en PDF et du coup, on pouvait conserver des choses. Et ensuite, il faut qu'on puisse suivre ce que font les personnes de façon très précise, il faut qu'on ait un workflow très détaillé. Et ça, on pourra en parler plus en détail plus tard, mais on a toujours repoussé les choses qui nous semblaient pas fluidifier l'expérience des utilisateurs et potentiellement plaire à certaines personnes qui ont besoin d'avoir du contrôle sur ce qui se passe, mais pas forcément aux personnes qui agissaient et qui étaient dans l'utilisation de ZAM au moment où elles ont besoin de l'utiliser parce qu'il faut rédiger les réponses. Pour info, la rédaction des réponses, en général, ça se passe par exemple si le projet de loi il passe le mardi. En fait, les amendements ils sont reçus le vendredi à 17h. Et en fait, les personnes, elles travaillent vendredi de 17h jusqu'à 2h du matin dans les ministères. Mmh. Et ensuite, tout le week-end, à faire des tas d'heures sup pour réussir à ce que ce soit fait dans les temps. Donc du coup, voilà, nous, notre but, c'était de faire en sorte que ces personnes, elles travaillent moins à 2h du matin et surtout qu'elles aient pas de risque de perte d'infos absolue et pas de rajouter du contrôle pour vérifier que elles faisaient bien ce qu'il fallait exactement comme on estimait qu'il fallait que ce soit fait.
Est-ce que ZAM, qui est donc un logiciel qui est écrit par l'administration, est-ce que ce logiciel va être ouvert au public lors de son fonctionnement ? Ou au moins les API ?
Alors, le code est sur GitHub depuis toujours. Par contre, ce qui se passe à l'intérieur de ZAM doit rester à l'intérieur de ZAM. En fait, l'idée, c'est que comme c'est les rédactions des réponses que conseillent les ministères aux ministres, mais que le ministre n'est pas obligé de suivre, il y a un enjeu quand même de crédibilité du ministre et on peut pas publier les réponses en disant le ministère avait conseillé de dire ça au ministre, mais le ministre a choisi de pas dire du tout ça. Donc du coup, c'est pas comme ça que ça va se passer. Mais effectivement, c'est la seule valeur. Enfin, c'est le seul contenu qui est rédigé dans ZAM et qui peut pas être montré. Mais sinon, après, comme tout le code est sur GitHub, ça peut être utilisé pour faire d'autres choses.
Je pense qu'il y aura des screenshots qui vont être très intéressants pour le canard enchaîné. Peut-on imaginer que les partis de l'opposition, voire des lobbies extérieurs, en fonction de leur intérêt, puissent utiliser un tel progiciel pour proposer eux-mêmes de leur côté des amendements ?
Bah, je réfléchissais, mais de fait, je pense que c'est pas possible en réalité. Les données sur lesquelles ZAM se base pour ensuite proposer aux utilisateurs ministériels une interface, voilà, c'est des données publiques en réalité. Donc en fait, il y a rien de plus que ce qui est déjà disponible sur les sites internet parlementaires.
Oui, mais par exemple, pour écrire de leur côté des amendements, qu'ils aient leur propre session, puisque c'est un logiciel donc qui est en SaaS, qui est sur serveur, pour eux-mêmes écrire de leur côté, avoir leur niveau décisionnel à N+1, puis à N+2, qui sait, pour justement l'amender, le modifier, avant de le proposer.
Alors c'est un très bon point d'ailleurs, on avait été voir l'Assemblée nationale pour essayer de discuter un petit peu avec eux de justement quels étaient leurs process à eux de rédaction des amendements et de validation en fait des amendements avant leur dépôt, sachant que côté Parlement il y a des plateformes numériques de dépôt des amendements, mais je sais pas du tout si ça inclut un processus de validation ou pas, je crois pas. Mais donc on avait été les voir pour discuter de tout ça, et en fait il y a un grand principe qui a été plusieurs fois bloquant pour nous mais qu'on a dû contourner, etc., c'est la séparation des pouvoirs. Donc en fait nous en tant que gouvernement on n'a pas le droit, ou en tout cas c'est compliqué d'aller discuter avec les gens du Parlement pour partager des outils. Donc aujourd'hui c'est pas possible, mais après c'est ce que disait Maïtané, c'est que la réalité c'est que l'outil, enfin le code en tout cas, il est dispo en libre, si la mécanique de l'outil intéresse quelqu'un, il peut tout à fait la réutiliser. Et c'est vrai que nous, on a aussi toujours en tête de se dire, voilà, peut-être que c'est une mécanique qui pourra être déclinée en fait sur d'autres processus, notamment parlementaires, et notamment d'autres, pourquoi pas.
CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Maïtané Lenoir, alias Maïwan, et Mélodie Dailly pour parler de ZAM, un progiciel pour l'écriture d'amendements de loi qui est donc développé par une start-up d'État. Qui peut me décrire en fait le process qui a été mis en place par cet outil ZAM ? Maïtané Lenoir.
C'est intéressant parce que donc tous les ministères ont des projets de loi, mais c'est pas quelque chose qui arrive de façon courante, et tous les ministères potentiellement font les choses de façon différente. Donc ZAM arrive là-dessus et dit bon, on va proposer un outil alors qu'il y a plein de façons de faire différentes, et donc on a eu depuis le début un parti pris qui est de guider sans contraindre, donc de proposer une façon très souple de fonctionner. Donc notre but c'est de pas justement du tout imposer de process. Voilà. Donc on a pris des profils de personnes. Il y a des personnes qui sont des rédacteurs, donc qui rédigent les réponses. Il y a des personnes qui sont des coordinateurs et qui vérifient que tous les amendements ont des réponses et que le dossier de banc, du coup, c'est-à-dire le dossier rédigé avec les réponses des amendements, soit fini à temps pour passer à l'Assemblée ou au Sénat. Et à partir de ces profils-là, on a fait des petites parties dans le logiciel qui sont juste une partie commune où il y a tous les amendements, dans lesquels on peut venir piocher les amendements sur lesquels on doit travailler, les mettre sur son espace, sur sa table. Et ensuite, une fois qu'on a fini de rédiger l'amendement, on peut le filer au collègue, donc le poser sur la table du collègue, donc dans l'espace du collègue. Et c'est ainsi que ça continue. Et donc, du coup, il y a des personnes qui font des tables où il n'y a pas de nom, en fait, ou qui sont des tables communes, donc des tables de validées par tout le monde. On dit pour que ce soit la table finale avant impression, une table avant impression. Et on a permis, voilà, on a eu toujours.
Donc c'est un peu une suite de machine à état, quoi, en termes de développement.
Je sais pas. Mais en tout cas, l'importance a toujours été de laisser les personnes les plus libres possibles. Et il y a des fois où on rajoutait des nouvelles mécaniques, par exemple une mécanique d'authentification qui bloquait le fait de faire des tables qui appartenaient à personne. Et on a développé autre chose à côté pour justement toujours laisser des marges de manœuvre, un maximum de marges de manœuvre aux personnes.
L'écriture de l'amendement d'une loi suit des règles très précises. Il ne peut concerner que des changements de mots, des remplacements d'articles existants. C'est à la fois très verbeux et contraignant. Comment arrange-t-on ergonomiquement une interface pour les rendre compréhensibles ? Je tiens à préciser d'ailleurs que c'est suite à ton premier billet que j'ai vraiment voulu faire cette émission, parce que tu le décrivais d'une manière qui était vraiment intéressante, quoi.
Merci beaucoup. Il y a deux parties dans ta question, je dirais. Il y a les personnes qui sont des rédacteurs et des coordinateurs, ils savent lire les amendements. Donc en fait, on n'a pas besoin d'agencer le contenu du texte pour qu'ils comprennent ce que ça signifie. Par contre, on a un devoir de rendre lisible le texte, parce qu'il y a beaucoup de texte en fait, tout simplement, et que les personnes, elles passent beaucoup de temps à lire et à rédiger et à relire. Et donc c'était surtout là-dessus qu'on avait un rôle à jouer, mais en fait, il y a des règles de lisibilité un peu minimales qui sont de pas mettre le texte à 10 pixels de large, de mettre les choses assez grandes sur l'écran. Et donc tu parles de mon premier article, il était sur la visionneuse. Donc ZAM, il y a deux parties. On parle depuis tout à l'heure de la partie répondeur, c'est-à-dire où les personnes, elles peuvent rédiger la réponse. Et il y a une autre partie qui est ensuite, qu'on destinait aux ministres et aux personnes qui sont dans l'Assemblée nationale, qui sont les dircables, les proches du ministre, ou à une version sur tablette, où on peut lire les réponses qu'ont rédigées les rédacteurs auparavant, et qui est juste une, ce qu'on appelle une visionneuse. Et là, par exemple, la visionneuse qui se destinait à être ministre, il y avait des enjeux beaucoup plus importants de lisibilité, parce que le but, c'était que si le ou la ministre doit se lever et en 30 secondes ouvrir l'amendement pour lire la réponse, il n'y a pas moyen de perdre une minute ou deux minutes à réussir à retrouver l'amendement. Donc on avait des principes ergonomiques, de là le texte était écrit encore plus gros, des... chose qui bougeait pas dans l'interface pour que toujours on ait un rappel de où est-ce qu'on se trouve, sur quel amendement, et un champ de recherche très facilement accessible pour que on puisse chercher l'amendement 232 si jamais c'était maintenant qu'il fallait l'avoir tout de suite et pas avoir passé beaucoup de temps à scroller dans le sommaire des amendements pour le retrouver.
Est-ce que vous avez déjà eu des retours justement de ministres qui dit ben ça tombe bien parce que quand je suis au cabinet, je sors mon smartphone et j'y suis direct dessus? Désolée, elle était facile, mais la question est sérieuse.
En fait, il s'avère qu'on a pivoté au début. On était beaucoup sur le fait que ZAM, ça allait servir aux ministres. Et en fait, finalement, les ministres, ils s'en servent pratiquement pas. Voilà, c'est extrêmement peu arrivé. Par contre, l'idée, c'est que avant le dossier de banc, il était imprimé et qu'il y avait un dossier de banc qui était imprimé pour le ministre et pour ses dircaves à côté. Donc, je sais pas, Mélo, il y en a 4 ou 5 des personnes à côté du ministre.
Mélodie Dailly.
Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, c'est assez variable. Mais
et combien de pages pour un dossier de banc?
Alors, du coup, on faisait 6 dossiers. En fait, il y avait un dossier ministre, un dossier d'archives et 4 dossiers pour, on va dire, les proches des ministres, donc conseillers, dircab, etc. Et on avait fait le calcul, ça représentait au total sur un PLFSS 60 000 feuilles de papier imprimé.
Ah oui, c'est...
Pourquoi? Parce que en fait, on tourne sur une moyenne qui est à environ 2000 amendements au début de la procédure. Ça décroît un peu, mais au tout début, on est à même plus que 2000 amendements par lecture, notamment à l'Assemblée. Après, ça décroît un peu, mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on imprimait donc déjà pour chacun des dossiers, mais en plus, on imprimait le papier parfois plusieurs fois au fur et à mesure des modifications. Donc voilà, on avait fait une estimation autour de 60 000 feuilles de papier imprimées chaque année.
Et donc l'idée, c'est qu'en fait, finalement, ce que permet ZAM, il y a toujours des dossiers papier qui sont imprimés, mais en fait, il n'y en a plus qu'un pour le ministre ou la ministre. Et ensuite, pour le reste, c'est tout se passe, les archives, du coup, on exporte un PDF, et tout le reste se passe sur tablette. Donc finalement, c'est pas le ministre ou la ministre qui nous utilise, mais c'est les autres. Et finalement, bah, ça permet d'éviter, au lieu d'en avoir 6 des dossiers de banc, il n'y en a plus qu'un. Et donc finalement, c'est pas si mal.
Donc c'est le DIRCAB qui est au cabinet, d'accord.
Je voulais juste préciser quelque chose sur l'utilisation par les ministres eux-mêmes. Il y a un élément qui est, à mon sens, hyper important là-dessus, c'est que le papier a cette facilité d'appropriation. En fait, tu peux annoter, souligner, surligner, etc. Et c'est vrai que le format numérique, c'est plus compliqué, en tout cas, de mettre en place quelque chose qui soit aussi souple que le papier. Donc, pour le ministre qui doit prendre la parole, qui doit défendre la mesure, etc., c'est vraiment important, c'est vraiment précieux de pouvoir s'approprier le discours. Tandis que pour ses proches, etc., ben, ils ont juste à suivre le débat, à bien être au fait de là où on en est de la discussion, etc. Donc, pour eux, le format tablette dématérialisé, il est complètement adapté.
Du coup, il y a quand même eu des personnes qui ont montré des frictions à l'idée de dématérialiser, qui est plus l'odeur de la feuille qui sort de la laser.
Franchement, à ma connaissance, aucun. Alors après, ma réponse, elle est biaisée parce que effectivement, toutes les personnes qui ont accepté d'utiliser ZAM savaient qu'il y avait ça dans l'outil. Donc, de fait, c'est des gens qui étaient partants. Clairement, les retours qu'on a aujourd'hui, c'est que pour les conseillers, pour les équipes techniques qui descendent parfois au banc en tant qu'experts, c'est vraiment une plus-value en fait énorme parce qu'en réalité, il y a énormément de modifications qui sont faites en dernière minute pendant la discussion et contrairement au papier, le numérique, il est mis à jour automatiquement. Tandis que le papier, il fallait réimprimer et courir littéralement, donc descendre physiquement dans l'hémicycle pour donner le papier. Et donc, ça prend plus de temps quand on a une modification urgente à faire. Donc, en fait, les conseillers, ils sont bien plus à l'aise avec le format numérique.
Ça, je veux bien le croire. Quand on s'intéresse au travail législatif, on voit parfois des votes à main levée qui, d'ailleurs, s'enchaînent pour voter les amendements à un rythme très rapide parce que c'est des fenêtres dans le calendrier pour pouvoir passer des lois. Et des fois, d'ailleurs, il y a des scènes qui ahurissent ceux qui découvrent ça. C'est-à-dire que les votes à main levée s'enchaînent extrêmement vite. C'est pas que dans le Parlement français, on le voit aussi au Parlement européen. L'outil permet-il de voir en temps réel ce qui est voté ou non ? Ou c'est du coup pour l'instant encore séparé comme canal d'information ?
C'est encore séparé, ouais. On est vraiment, nous, jusqu'à apporter l'information pour que le ou la ministre parle. Et ensuite, on s'arrête là. Et on a envisagé des choses, mais on n'a rien mis en œuvre pour l'instant. Voilà.
Il faut savoir aussi que le Parlement, que ce soit donc côté Assemblée ou côté Sénat, ont des outils en fait très performants où à tout moment tu peux suivre à la fois la discussion en direct et à la fois les, donc nous on appelle ça les sorts, donc les votes en direct aussi sur leur site. Mmh. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui n'existe pas.
Oui, je confirme. Faut le trouver, mais je confirme, c'est quand on s'intéresse à ça, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce qui garantit l'indépendance de ce logiciel et des serveurs vis-à-vis des partis ou des personnes en place qui pourraient avoir un intérêt plutôt qu'un autre?
Rien du tout. C'est un truc que j'ai appris en travaillant sur ZAM, c'est que en fait, ça dépend complètement de. Enfin, si jamais il n'y a pas d'intention politique, l'outil il sert pas à grand chose. Donc nous, on pourrait faciliter ou défaciliter des choses, c'est-à-dire qu'on pourrait faire en sorte de dire, tous les amendements qui viennent de La République en Marche, on peut faire une sélection rapide et mettre un avis favorable à tous. Et on n'a pas fait ça. On pourrait. Mais de toute façon, rien n'empêche les personnes de dire, je prends un par un tous les amendements d'un parti qui n'est pas le mien et je mets défavorable. C'est plus ou moins ce qui se passe déjà, mais du coup, c'est juste facilité ou pas facilité grâce à l'outil et c'est pas du tout empêchable parce que c'est politique.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Mélodie Dailly et Maïtané Lenoir pour parler de ZAM, un progiciel de gestion des amendements de projets de loi qui est donc le lien entre les ministères et l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que l'UX a aidé? Là, je pose la question à la spécialiste, à Maïtané. Est-ce que ça a permis un meilleur dialogue, de meilleures performances techniques sur le logiciel, un flux de travail repensé ou plus rapide? Maïtané Lenoir.
Alors, ça a permis un peu tout ça. Alors, dans le détail, le fait d'avoir comme ligne de conduite de pas forcer les personnes à faire certaines actions, c'était lié aussi à des principes de conception de l'outil et donc c'est lié à l'expérience utilisateur. Donc, on dit UX pour expérience utilisateur. Et ça a permis aussi une meilleure adoption parce que quand Mélodie fait des démos aux personnes et qu'elle leur dit voilà, là, on vous a laissé l'outil très souple pour pouvoir vous l'approprier comme vous voulez, c'est forcément entendu différemment que quand on leur dit les étapes, ça sera ça, puis ça, puis ça, et vous n'avez pas le choix, vous devez vous y coller. Donc il y a quand même déjà un truc dans la stratégie de l'outil qui est lié à l'expérience utilisateur. Et ensuite, il y a parfois eu aussi des questions de performance technique, où la solution, ça a été des refontes ergonomiques. Donc je pense notamment à cette histoire de visionneuse où au début, on se disait peut-être qu'il y aura pas de réseau dans l'Assemblée nationale et donc il faut que tout soit sur une seule page pour être sûr que sur la tablette le ministre ou la ministre soit pas désarçonné en disant ah oh, mon Dieu mais mon logiciel je vois plus rien du tout dessus. Et en fait au fur et à mesure du temps il s'est avéré que sur les 2000 amendements du PLFSS la tablette ne pouvait pas tout mettre sur une seule page d'un coup affichée comme on le souhaitait. Et à ce moment-là du coup on a réinterrogé la problématique de tout avoir sur une seule page dû au réseau. On s'est dit, OK, il y a du réseau, en fait, dans l'Assemblée. Donc, on peut peut-être faire quelque chose de différent. Et là, on a changé ergonomiquement la façon de fonctionner de la visionneuse. C'est-à-dire que, on avait un menu où on rentrait par article et il y avait un parcours à faire entre les articles. Et ça a changé au niveau des performances parce qu'avant, rien ne s'affichait parce que c'était trop lourd et que finalement, on a réussi à débloquer des choses comme ça. Je sais pas si Mélodie, ça m'intéresse de t'entendre parce que tout à l'heure, on fait des retours d'expérience en ce moment de ZAM et t'as parlé du fait que moi je suis venue observer, du coup je suis rentrée dans les ministères de 17h à 1h du matin pour observer les gens travailler avec ZAM, c'était très intéressant. Et on en reparlait, tu disais que ça avait apporté quelque chose, Mélodie.
Mélodie Dailly.
Oui, c'est vrai que moi d'abord je connaissais pas du tout ce métier avant de travailler avec Maïtané et une des premières choses qu'elle m'a présenté comme étant vraiment un élément qui avait de la plus-value pour elle, c'était de venir nous voir, en fait, venir nous voir en direct, comment est-ce qu'on travaillait, comment est-ce qu'on utilisait l'outil parce qu'on en avait à ce moment-là, mais même juste venir nous voir comment on travaille, etc. Et c'est vrai que déjà, elle voit des choses que l'humain normal ne voit pas. Donc ça, c'est hyper, moi, ça m'a vraiment beaucoup interpellée parce que elle va remarquer, les petits clics, les petits scrolls, les yeux qui se baladent à droite à gauche. Et en fait, elle va remarquer des points qui sont pénibles, mais que nous, utilisateurs, en tout cas, qui vivons ce problème, on a complètement intégré. En fait, on se rend même pas compte de ce qu'on fait et qui est pénible. Alors que elle va tout de suite le voir et elle va en tirer des conséquences importantes sur l'outil. Et du coup, en tant que moi, en tant qu'entrepreneur qui ai dû aller souvent faire des démos, etc., c'est vrai que j'ai régulièrement et très très souvent eu des remarques sur le fait que c'était très facile à prendre en main, que les personnes à qui j'avais envoyé le lien de la démo, voilà, ils s'étaient tout de suite retrouvés en fait dans l'espace et ils avaient su où faire quoi. Donc ça, c'était super intéressant. Et un autre truc, c'est que concrètement, je n'ai jamais eu, et je peux vous dire, ça fait presque deux ans maintenant qu'il y a des gens qui utilisent l'outil, je n'ai jamais eu, pas une seule fois, un coup de téléphone de quelqu'un qui m'a dit « je sais pas où on fait ça, je sais pas comment, où est-ce que je dois cliquer, je sais pas ». Jamais, pas une seule fois. Donc moi, on me fera pas croire que c'est pas une ergonomie, un travail du X qui est hyper adapté par rapport à ça.
Lors de cette mandature de l'Assemblée nationale, on enregistre en janvier 2020, je le signale au cas où d'ici la diffusion, on ait une dissolution, on ne sait jamais, nous avons le premier député handicapé de l'histoire de France, Damien Abad, qui est le chef de groupe d'ailleurs Les Républicains. Oui, comme quoi, bah oui, je sais. Est-ce que l'application est pensée pour différents handicaps?
Alors, il y a des règles d'ergonomie minimales au niveau des handicaps visuels, mais pas des déficiences visuelles.
Le RGAA.
Oui, voilà.
C'est
oui.
bien de le rappeler, oui.
Oui, oui, oui. le RGAA qui se décline sous différentes caractéristiques à mettre en place sur sa plateforme. Donc moi, depuis que je fais du graphisme et de l'ergonomie, mes maquettes, elles respectent certaines règles minimales de taille de composants, de contraste des couleurs pour de pas mettre de l'information que sous forme colorée parce que ça ne fonctionne pas pour les daltoniens ou des choses comme ça. Par contre, au niveau de l'accessibilité, par exemple, si on avait une personne qui était rédactrice et qui était non-voyante, ça je suis pas convaincue, mais ça se passe plutôt côté code, donc je saurais pas dire. Mais toi, Mélo, t'avais quelqu'un qui travaillait avec toi?
Ouais, exactement. Alors, il se trouve par hasard que j'ai un collègue qui est non-voyant, donc totalement non-voyant, et qui utilise un logiciel sur Windows dont j'ai oublié le nom, qui lui lit en fait les différentes composantes de la page.
Un lecteur d'écran, oui.
Voilà. Il a testé du coup, enfin il s'est connecté sur Zam pour consulter, manipuler un petit peu, et il m'a dit que ça fonctionnait très bien, donc que c'était parfaitement compatible avec ce logiciel et qu'il arrivait tout à fait à naviguer dans Zam. Donc effectivement, côté code, en fait, les développeurs, je crois, avec plus ou moins conscience de l'effort qu'ils faisaient, on fait en sorte que ça soit en fait compatible avec ces logiciels justement pour les non-voyants.
On n'est pas expert accessibilité et moi j'ai pas lu le RGA en entier pour savoir si on faisait les choses bien, mais on est tous au moins au courant des bonnes pratiques d'accessibilité, donc on a fait au mieux, mais on n'a pas fait de test utilisateur avec des personnes qui avaient remonté qu'elles avaient un handicap et donc du coup que c'était important pour elles, donc on peut pas plus. À part les fameuses choses qu'on vient de dire là, on peut pas dire mieux.
Non, parce que c'est rare déjà qu'un progiciel ait une démarche UX, alors travaille sur accessibilité, alors que l'informatique est censée aider les 7% minimum obligatoire de handicap. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Ça ferait mal dans pas mal d'entreprises, je pense. Qu'avez-vous appris respectivement lors de la conception et de la mise en place de ZAM?
C'est une question par rapport au fonctionnement législatif ou par rapport à...
Vous-même, sur la manière de faire vis-à-vis de vos métiers respectifs?
Moi, j'ai appris à fonctionner en agilité parce que du coup, on fait des itérations très rapprochées avec les développeurs, les démos toutes les deux semaines avec des nouvelles fonctionnalités, avec une vraie priorisation par rapport à ce qui est important pour les personnes. J'ai appris à naviguer en eau administratif grâce à Mélo en allant dans les ministères et en découvrant du coup le contraste très impressionnant de ce que c'est un ministère et ça ressemble pas mal des fois à des bocaux à poissons avec la façon dont sont faits les bureaux. Et j'ai aussi appris à voir comment c'est quand les utilisateurs sont au taquet avec ce qu'on fait et donc du coup qu'ils soient très friands d'avoir des nouvelles fonctionnalités qui arrivent parce que ils sont enthousiastes et que effectivement il n'y a aucune remise en question de notre façon de fonctionner parce que on a fait nos preuves du fait que ça marchait et donc pas de question de est-ce que je peux avoir un guide utilisateur, est-ce que ça vous pouvez le changer parce que la façon dont je l'ai fait ça colle pas avec ma façon de faire. On a de la chance et du talent, n'est-ce pas, d'avoir réussi à faire les choses correctement au fur et à mesure. Et ça, c'est dû, sans aucun doute, au fait qu'on avait une équipe super. Une équipe qui est à distance, d'ailleurs, qu'on n'a pas précisé, mais David est au Canada, Ronan est en Picardie.
Ah oui, donc c'est du vrai télétravail, pour le coup. Ah oui.
Complètement, à part quand je me déplace pour aller voir les personnes au ministère, on est tout le temps en télétravail à distance et ça fonctionne quand même hyper bien, donc c'est super chouette.
Sur le fonctionnement des ministères, il faudrait que je te passe une très bon guide en images séquentielles qui s'appelle Quai d'Orsay, qui a aussi été adapté en documentaire, je crois. Il y a une histoire de chat dedans, d'ailleurs, ça devrait te plaire. Mélodie, toi, sur ZAM, qu'est-ce que tu as appris ?
Alors moi, qu'est-ce que j'ai appris durant cette mission ? À vrai dire, énormément de choses. C'est très, très difficile comme question. Mais je pense que la première chose vraiment que je retiendrai, c'est la méthode itérative aussi, mais surtout la focalisation sur le besoin. Parce que je trouve que il y a quelque chose qui est, à vrai dire, très, très mal connu pour nous, les non-geeks, qui partageons pas du tout ce monde dans lequel vous évoluez tous les métiers du développement numérique. C'est le fait de dire on a beaucoup plus de chances de faire quelque chose de bien si on se focalise sur le besoin utilisateur et non sur la solution qu'on imagine qui pourrait être adaptée. Et ça, vraiment, moi, j'ai complètement adhéré à cette démarche dès le départ, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, en réalité, doit être en permanence répété, réexpliqué, etc., au travers de notre travail et de notre démarche. Mmh.
Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un repo sur GitHub avec le code civil où chaque commit est une modification par une loi du code civil. Alors, est-ce que vous l'avez regardé et est-ce que ça vous a inspiré ?
Moi, ça me dit rien, mais je me demande si... Enfin, je vais pas projeter le fait que David et Ronan aient pu regarder peut-être quelque chose, mais on...
On mettra le lien sur le site cpu.pm pour plus tard.
Est-ce que c'est une startup d'État aussi ou pas du tout ?
Non, pas du tout. C'est une initiative individuelle et c'est surprenant parce que du coup, il a repris tous les... Enfin, il a écrit un logiciel pour interpréter tous les amendements les uns après les autres pour remplacer tel mot dans tel truc, etc. Il a automatisé tout ça. C'est une masse absolument incroyable.
Bah, en fait, je ne sais pas si c'est intéressant pour toi de savoir, mais on a regardé tout plein d'initiatives, donc que ce soit des repos GitHub, donc notamment du travail qui a été fait par des associations telles que Regard Citoyen, sur un nodéputé.fr, et qui sont des gens qui en fait travaillent justement sur la transparence en fait du processus législatif. Et en fait, on a été plus loin même que regarder ce qu'ils font. On utilise leur code en réalité, donc on est assez ouvert sur toutes ces démarches-là. Et par ailleurs, il y avait aussi des petites sociétés, notamment une à laquelle je pense, mais qui se sont aussi spécialisées dans des développements sur la fabrication de la norme, etc. Avec malheureusement pas du X, et je pense que c'est là où ils se sont plantés parce que leurs outils sont vraiment horrible, mais il y avait déjà des choses qui étaient faites là-dessus. Donc effectivement, on a quand même regardé ce qui se passait avant de se lancer comme ça dans le développement. Hein, mais voilà.
Est-ce que dans votre propre repo Git, il y a eu des Git moins force, moins message 49.3 où la blague a été retoquée par le Conseil constitutionnel ?
On n'est pas développeur, donc on a un joker là-dessus.
Je pense que la blague peut être comprise quand même. Maïtane Lenoir, merci beaucoup. Mélodie Daï, merci beaucoup de nous avoir consacré du temps pour cette conversation qui fut fort instructive et tout à fait civile et diplomatique. Merci à vous toutes les deux.
Merci.
Avec plaisir, merci beaucoup.